l'heure philo. L'heure philo jusqu'à 21h, Henri-Marc Mutel à la réalisation, Chantal Lemontagné à la préparation, Djoubaka choisit les disques et Antoine Teboul est à la console. Dominique Bourg est ce soir notre invité, philosophe des sciences, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, auteur de très nombreux livres, le dernier en date, Primauté du vivant, essai sur le pensable, c'est un livre qui est paru au PUF et il est co-signé avec la philosophe et économiste Sophie Zvaton.
France Inter, l'heure philo. Patricia Martin.
Dominique Bourg, bonsoir.
Bonsoir Patricia.
Nous sommes très heureux de vous recevoir, heureux et soulagés parce que vous qui habitez Lausanne, vous venez donc de là-bas, vous avez dû mettre à mon avis plus de temps pour venir de la gare de Lyon à la maison de la radio que de Lausanne à Paris.
Pas tout à fait.
Mais... Dans ce livre, donc Primauté du vivant, vous établissez une sorte de bilan et de critique de l'héritage occidental d'une civilisation qui court à sa perte, appelant à la rescousse de votre pensée. On va y revenir, des philosophes comme Bergson, Spinoza ou Nietzsche. Vous semblez, et vous l'écrivez d'ailleurs d'entrée de jeu, consterné par l'indifférence, l'inconscience, même le déni persistant qui est le nôtre, face à une situation catastrophique, on le sait.
Totalement. Et il se répète en pleine campagne, puisqu'on est durant cette campagne présidentielle. Je lisais là dans Le Monde que 94% des Français se disaient inquiets, notamment du dérèglement climatique, et comme vous le savez, il n'en est absolument pas question dans cette campagne. Il y a là quelque chose de très très curieux. On peut même se demander finalement, si vous voulez, si c'est pas la peur du sujet qui fait qu'on préfère ne pas en parler.
Ouais. Notre terre brûle et nous regardons ailleurs. Hein.
C'est oui, et on regarde d'autant plus ailleurs qu'elle brûle.
Mais les faits sont têtus parce qu'en 2030, on va atteindre 1,5 degré de réchauffement supplémentaire. Et en 2040, ce sera 2 degrés, c'est ça ?
Alors en fait, il faut bien comprendre qu'on a une inertie du système, c'est-à-dire que la température moyenne aujourd'hui, si je prends la première moitié du 19e et pas la deuxième, c'est 1,2 au lieu d'un, mais enfin peu importe. Mmh. Et là, cette température moyenne, si vous voulez, c'est grosso modo, hein, quelques pouillèmes près, c'est grosso modo les émissions qu'on a accumulées jusqu'à il y a 20 ans. Et donc en fait, aujourd'hui, on a déjà décidé de la température moyenne et des autres phénomènes qui sont très importants qu'on va devoir subir à compter de la décennie 2040. Et effectivement, que nous ayons des années, je dis bien des années, à plus de degrés de moyenne par rapport à la première moitié du 19e siècle, durant cette décennie-là, oui, c'est extrêmement probable et en partie engagé.
Donc il s'agit en fait de faire émerger véritablement une nouvelle civilisation. C'est ça qui est en jeu à l'heure actuelle.
C'est absolument ça qui est en jeu, c'est-à-dire que la nôtre est hautement destructrice, elle en est fière, elle ne veut pas revenir sur elle-même.
Et réenchanter le monde, parce que ça aussi, tout n'est quand même pas complètement noir de tous les côtés, heureusement, ça passe par la métaphysique et ça passe par la philosophie.
Alors l'idée là justement, c'était de regarder les choses d'assez loin, on reviendra sur cette idée de paradigme, d'essayer de voir les mouvements comme ça de la pensée qui sont un peu, si vous voulez, comme des tectoniques des plaques très très lentes, puis il y a des moments donnés, il peut y avoir des ruptures de seuil, donc si l'on regarde ça, c'est vrai que ça affole moins, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit des éléments de ce que pourrait être une civilisation future, entretenant des relations complètement refondues vis-à-vis de la nature et du vivant en général.
Ouais, ouais. Philippe Descola, hein, vous en parlez dans votre livre, c'est une des grandes figures américanistes de l'anthropologie.
En apparence, en effet, l'anthropologie de la nature est une sorte d'oxymore, puisque depuis plusieurs siècles en Occident, la nature se caractérise par l'absence de l'homme et l'homme par ce qu'il a su surmonter de naturel en lui. En postulant une distribution universelle des humains et des non-humains dans deux régimes ontologiques séparés, nous sommes d'abord bien mal armés pour analyser tous ces systèmes d'objectivation du monde où une distinction formelle entre la nature et la culture est absente. La nature n'existe pas comme une sphère de réalité autonome pour tous les peuples. Et ce doit être la tâche de l'anthropologie que de comprendre pourquoi et comment tant de gens rangent dans l'humanité bien des êtres que nous appelons naturels, mais aussi pourquoi et comment il nous a paru nécessaire à nous d'exclure ces entités de notre destinée commune. Notre singularité par rapport au reste des existants est relative, tout comme est relative aussi la conscience que les hommes s'en font.
Alors, ça fiche un coup à notre ego, hein. Notre singularité d'humain est relative.
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, cela dit, par rapport à la question de la nature, si vous voulez, effectivement, et Philippe Descola appelle ça le naturalisme, et en fait, c'est l'avènement du mécanisme, c'est-à-dire l'idée qui s'affirme dès la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, selon laquelle la nature, ce n'est qu'un agrégat de particules matérielles.
Descola, il parle même de régime d'apartheid. Hein.
Ah, et oui, alors du coup,
la ségrégation est ontologique.
Hein. Ah, du coup, c'est ça. Hein. Lui, il distingue quatre ontologies, hein, quatre grammaires, si vous voulez possible. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, si effectivement la nature se réduit, si les animaux, si les plantes ne sont que des machines, les êtres humains sont à l'extérieur de la nature. Maintenant, chez les Grecs, chez Aristote, on définit en partie seulement la nature par opposition à la techné, donc aux êtres humains, mais en même temps, on affirme bel et bien que les êtres humains appartiennent à la nature en jouant sur un certain nombre de nuances. Et je crois qu'on aurait aussi tort de ne pas insister sur cette espèce de qualité qui caractérise nos actions, parce que à partir du moment où elles ont connu un certain développement, avec la modernité, c'est très clair. Ce qu'on est capable de faire, nous autres êtres humains, c'est de faire exploser des flux au point de bouleverser les stocks, c'est ce qui se passe pour le carbone, ou alors d'accumuler des macromolécules, des déchets, des entités diverses dans les graisses animales, dans l'air, dans l'eau et dans les sols. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, on détruit.
On détruit, et c'est une sorte de déclaration de guerre aux vivants
de la part des
sociétés mécanistes, justement.
Alors, c'est une véritable déclaration de guerre
aux vivants. D'opposer, en tout cas, comme ça, à ce point, la nature et la technique.
Complètement. C'est-à-dire, là, par exemple, si on prend l'agriculture, c'était quand même, si vous voulez, l'interface normale entre nous et le reste de la nature. Ça passait par l'agriculture. Bien, effectivement, l'agriculture, à partir du début du XXe siècle, décide de s'émanciper petit à petit, en tout point, de la nature. Ça va être le procédé d'Haber-Bosch, avec lequel on va commencer à capter de façon synthétique l'azote de l'air, donc à se détacher, s'émanciper du cycle naturel, l'azote étant le facteur par définition limitant de la croissance des plantes. On va s'abstraire des sols, on va s'abstraire de la faune, on va s'abstraire des haies, on va s'abstraire de la variété des cultivars, on va s'abstraire dans la mesure du possible du travail humain, on va s'abstraire de tout pour finir par faire une agriculture, si vous voulez, hors sol, hors vivant, totalement destructrice du vivant. Je vous rappelle que si on regarde par exemple ce qu'on appelle les arthropodes dont font partie les insectes, depuis quelques années, maintenant c'est très documenté, on assiste autour de nous à un effondrement. On a déjà fichu en l'air tout ce qui était vertébrés sauvages, hein, c'est plus que 3 à 4% de la biomasse des vertébrés sur Terre. 2/3, ce sont nos animaux domestiques. 1/3, ce sont nous autres, les bipèdes. Bon, ça, on savait qu'on avait dézingué tout ce qui était vertébré sauvage. Mais maintenant, on dézingue tout, si vous voulez, l'ordre en dessous. C'est-à-dire, les arthropodes, à la différence des vertébrés, c'est ceux qui sont, si vous voulez, structurés de l'extérieur par leur carapace et non pas par une colonne vertébrale. Et là, c'est l'alali. On détruit à grande vitesse.
Et on réduit la nature à une sorte d'agrégat mécanique qui serait fait de particules inertes, ce qui fait que nous, ça nous met totalement hors jeu, l'humain.
Alors on est hors jeu. Alors ça, on est hors jeu depuis les fonds baptismaux de la modernité avec le mécanisme. Mais si vous regardez le fameux métavers de Facebook, c'est encore pire. Alors on dit, écoutez, la nature, c'est pas sérieux. On va vous proposer un monde alternatif. Alors, soit on a le métavers, soit on a la fuite sur Mars. Deux délires totaux, mais qui sont vraiment l'expression de ce qui commence à s'affirmer dès la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. C'est une longue affaire dont on voit aujourd'hui les expressions les plus radicales et, pour tout dire, les plus folles.
C'est une philosophe que vous connaissez bien, je crois, Corinne Peluchon.
On a aujourd'hui quand même l'occasion de mettre en œuvre des changements. La transition écologique, c'est un mot qui a sa beauté. Transition, ça veut dire qu'il y a un horizon, qu'il y a un processus qui sera adapté aux milieux géographiques et sociaux, aux êtres, qui sera donc contextualisé. Mais il y a quand même des changements structurels à mettre en place au niveau de la production, des modes de production, de la transformation de l'agriculture, de réduire aussi dans sa consommation les modes de vie énergivores, de réduire la consommation de produits animaliers, mettre en place une économie circulaire. Il y a tout un tas de rapports qui existent depuis une dizaine d'années, qui sont chiffrés, faisables, qui montrent que c'est possible. Nous ne sommes pas seulement des libertés, nous sommes des libertés, mais nous avons cette matérialité de notre existence, cette dépendance à l'égard des écosystèmes, cette vulnérabilité et interdépendance entre nous qui implique que l'écologie, la cause animale, le souci pour les générations futures, eh bien, soit au des finalités du politique et s'installe au cœur de l'éthique et de la politique. Et donc, ça, c'est vraiment un projet qui aussi est un projet d'émancipation, parce que ça suppose de s'affranchir de représentations dualistes, nature-culture opposée, de schémas un petit peu binaires, et ça suppose aussi que cette transition ne demande pas moins de liberté, mais plus de liberté. Mais une liberté investie, une liberté responsable.
Liberté responsable, c'est de notre responsabilité. Donc, il faut prendre conscience à la fois que nous sommes petits, mais que nous pouvons être grands.
Alors j'en profite pour saluer Corinne, qui est une excellente philosophe. Oui, elle a raison, tout ce qu'elle vient de dire. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que ça reste très programmatique. Alors, si vous regardez par exemple le résultat de la COP26 de Glasgow, bon, il y a un progrès sur les modalités par les nations de contrôle des efforts les unes des autres, mais absolument pas quant à l'effort à fournir. Et comme vous le savez, après Glasgow, comme après toutes les COP antérieures, nos émissions vont augmenter. On pense même qu'après Glasgow, d'ici à 2030, elles augmenteront de 14% par rapport non pas à 90 mais à 2010, donc une augmentation plus importante encore, puisqu'on prend un référentiel plus élevé. Alors même que si on voulait ne pas exploser les 2 degrés, il faudrait au contraire, de maintenant à cette échéance, réduire à l'échelle mondiale, grosso modo, de moitié nos émissions.
Ça s'appelle la primauté du vivant et c'est le titre de votre essai, Dominique Bourg. Pierce Fassigny sur France Inter.
They went down to the river, found a riverbed dry. Eden in the valley where the hummingbird cried. Shoreline in white rags and veils, and drew out in the sand element for the trail. Ooh, the time was fair, then we'll be safe. One life for the weak, one time for the brave. Ooh, the judge, they do whatever they must. All that remains is a cold fistful of dust.
y a quelqu'un dont je voudrais que vous nous disiez un mot, c'est un mathématicien français, Alexandre Grothendieck, qui est donc mort en 2014. Écologiste radical, pacifiste, un génie, je crois on peut dire un génie des mathématiques, qui a écrit un texte au début des années 70 qui a fait vraiment l'effet d'une bombe.
Oui, alors Grothendieck, c'est un personnage très très particulier, c'est vrai, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est effectivement quelqu'un qui arrive tout jeune en France, qui va se retrouver dans un camp au début de la guerre, etc. Qui va effectivement finir par devenir un très grand mathématicien, médaille Fields,
l'équivalent du prix Nobel,
voilà. Mais bon, tous les Nobels sont pas équivalents. Et là, lui était vraiment un des fondateurs de ce qu'on appelle la topologie. C'est une très grande figure des mathématiques. Et effectivement. Fin des années 60, 70, je crois même, plus exactement, il y a une sorte de, non, avant, je crois, 68, il a une conversion à l'écologie. Il va fonder la section française d'un mouvement qui est créé par de jeunes mathématiciens américains et canadiens qui s'appelle Survivre. Il va fonder la section française. Il va être accompagné de gens comme, je crois, Chevalet, Pierre Samuel, etc. Il y a tout un courant de mathématiciens qui vont devenir très écolo. Et il va créer une revue qui s'appelle au départ Survivre, puis finalement Survivre et Vivre,
un petit peu plus engageant de vivre que de survivre.
Tout à fait. Et où il va publier des textes très très importants, dont ce texte où il compare le scientisme à une religion hyper destructrice et terriblement arrogante. Et alors, dans un livre futur à paraître avec un ami mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot, on revient là-dessus et on essaie de montrer pourquoi il a pu dire ça, en quoi, si vous voulez, c'est en quelque sorte l'incomplétude de nos connaissances qui permettrait de comprendre la destructivité possible de nos connaissances et de ce sur quoi elles permettent de déboucher, à savoir nos techniques. Et Grothendieck est quelqu'un qui comprend ça en drainant avec lui d'autres matheux de l'époque, et le fait qu'ils soient matheux, c'est très important, parce qu'ils sont très au fait des fondements de l'incomplétude de notre connaissance. Et évidemment, au bout d'un moment, il va se faire virer du Collège de France, parce que
il n'enseigne pas que les maths. Il aura plus le droit d'y venir de temps en temps, il
fait
des conférences, il n'aura plus le droit.
Parce que voilà, il y enseigne aussi l'écologie et pas simplement les maths. Il va finir par se réfugier dans les Pyrénées, mourir en s'isolant lui-même, en fait avec une espèce de passion pour les plantes, mais quand même, juste avant de mourir, il va se réconcilier avec ses enfants. Alors cela dit, c'est un personnage fabuleux, on le redécouvre aujourd'hui.
Inquiétant quand on voit les photos.
Pas être assez facile, je dois dire que ça devait être assez difficile d'avoir des relations franches avec lui, mais c'est un génie, et c'est un génie qui n'est pas simplement un génie mathématique, c'est un génie qui a compris une tendance très forte de son époque et qui en a compris les fondements. C'est assez rare.
Alors ça, c'était en septembre 2015. Le pape François prononçait un discours à l'ONU, le Laudato Si, loué sois-tu, sa seconde encyclique, en réponse à cette controverse. C'est le christianisme qui nous aurait coupé de la nature.
L'abus et la destruction de l'environnement sont en même temps accompagnés par un processus implacable d'exclusion. La soif égoïste et illimitée de pouvoir et de bien-être matériel conduit autant à abuser des ressources matérielles disponibles qu'à exclure les faibles, l'exclusion économique et sociale est une négation totale de la fraternité humaine, et ils doivent subir injustement les conséquences des abus sur l'environnement. Ces phénomènes constituent aujourd'hui la culture des déchets, aujourd'hui si répandue et inconsciemment renforcée.
Sauvegarde de la création avec un C majuscule, hein.
Tout à fait. Alors oui, on est quand même dans un ordre religieux, encore que Laudato Si, c'était sa deuxième encyclique, vous l'avez rappelé, Patricia. La première, justement, avait développé la question du déchet humain, hein, de la pauvreté, etc. Donc cette encyclique est porteuse de ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Donc en quelques mots, là, vous l'avez entendu, l'écologie intégrale, et pour reprendre une expression de Leonardo Boff, c'est quand on ne sépare pas la clameur des pauvres et les clameurs de la terre. Et en fait, si vous regardez la statistique que vous donne les la responsabilité des émissions au monde, hein, les 10% les plus riches, et on en fait partie, c'est 52% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre, et les 50% les plus pauvres, c'est 7%. Or, si vous regardez la statistique en termes de répartition de la richesse sur Terre, c'est à peu près la même. Là, je m'appuie sur Piketty Chancel. Eh bien, en fait, 10% de la population sur Terre se sont accaparés de 48% des revenus, et les 50% ne s'en partagent que 8%. Il y a un recouvrement total. Autre chose, l'écologie intégrale, on intègre aussi, on ne sépare pas la relation des êtres humains les uns avec les autres, de la relation des humains au vivant en général. Et, vous avez parlé tout à l'heure des dualismes, on remet en cause le paradigme, on reviendra peut-être au mot, là en tout cas nommé soit technocratique, soit techno-économique, et ce paradigme, il est construit autour de ces dualismes dont parlait tout à l'heure si justement Corinne.
Mais dites-nous simplement ce que c'est qu'un paradigme, que vous comparez à une sorte de vent
de flux. Alors ça c'est la manière dont on entend avec Sophie dans ce livre-là un paradigme. Un paradigme, si vous voulez, c'est une structure de pensée séculaire qui met en forme ce que vous allez pouvoir penser, ce que vous allez pouvoir agir. Qui le met en forme sur un temps très long. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir penser en dehors, mais quand on passe en dehors, on est un peu comme des remous latéraux par rapport au flux principal.
Flux, il n'est pas continu, il y a des secousses, disons.
Alors, il y a des secousses et il est profond, le flux. Mmh. C'est-à-dire qu'un paradigme, à la fois, par exemple, si je prends le mécanisme dont je parlais tout à l'heure, il naît fin 16e, 17e, même s'il réinterprète un mécanisme antique, mais il va charrier des choses qui nous viennent du néolithique. Et en faisant la relation entre les deux. Et donc, un paradigme, on peut aussi comparer ça, si vous voulez, au mouvement de la tectonique des plaques. En fait, évidemment, on ne pense jamais par soi-même, ça, faut être niais pour croire ça. On pense dans un cadre, et le cadre le plus général, c'est ce qu'on peut appeler un paradigme. De ça, on peut tout de suite tirer une première conséquence, très importante, c'est la pensée humaine, elle est collective. Et puis, si je regarde par exemple, si je reviens au début du mécanisme, et un grand historien des idées mécanistes, Robert Lenoble, du 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle, disait en fait, vous avez les grandes figures savantes de l'Europe au départ qui ne se connaissent absolument pas, qui ne nouent aucune relation au début entre elles, mais tous ces gens vont penser le paradigme mécaniste comme une évidence. Ils n'en ont pas décidé. C'est comme, si vous voulez, s'ils avaient reçu une forme de lumière. Et c'est-à-dire que la pensée humaine, eh bien, si vous voulez, elle nous cite un peu comme si, je reprends l'image de Tim Ingold, penser, c'est un peu tisser un panier. Mais je n'ai pas créé les fibres, et puis les fibres vont m'imposer certaines formes.
Mais pour en revenir, Dominique Bourg, à ce qu'on entendait tout à l'heure dit par le pape, sur les racines, finalement il se défend en quelque sorte, hein, sur les racines historiques de la crise écologique. On peut prendre ces quelques lignes dans la Genèse, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur terre. C'est de là que ça part ?
Alors ça, c'est un élément très important, mais si vous voulez, dans la Genèse, il y a trois types de textes. Il y a ce texte-là, et on pourrait donner Genèse 1, 26. Hein, vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes les seuls à l'avoir été, et c'est pourquoi vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Mais vous avez, par exemple, Genèse 1, 30. Hein, là, Dieu est en train de faire le monde, il a créé les animaux, tout ça. Il s'arrête, on est au soir du cinquième jour, il n'a pas encore créé Adam et Ève, et il regarde ce qu'il a fait, il est très content de lui. Dieu, il dit tout ça, et très bien. Ça veut donc dire que tout ce qui existe a une valeur avant même que des êtres humains existent. Ça, c'est déjà une autre interprétation. Et puis, il y a troisième interprétation, il y a Genèse 2:7, hein, c'est François Lassiste qui va
exaucer. Justement, lui, on dit que c'est le patron des...
Ah, mais des écologistes, c'est pas pour rien.
C'est le patron des écologistes.
Voilà, parce que lui, ben non, c'est dans la Bible d'ailleurs, c'est dans la Genèse. Non, toutes les espèces ont été créées de la même glaise, et les êtres humains ne sont pas du tout supérieurs aux autres. Hein. Donc, en fait, vous avez ces trois strates dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans la partie occidentale de l'Europe, au bout d'un moment, on a fini par ne retenir que la phrase que vous avez donnée, ou Genèse 1, 26, si vous voulez. C'est ça qui est devenu la matrice interprétative. Et le pape dit, ben non, Parce que effectivement, en fonction de ça, c'est vrai que le christianisme a joué un rôle énorme dans l'avènement du paradigme moderne. Et en plus, si vous voulez, le paradigme moderne dont je parlais tout à l'heure, si effectivement tout ce qui nous entoure n'est qu'un agrégat de particules, nous autres êtres humains qui nous appréhendons comme pensants, on se pense d'emblée comme extérieur à la nature. Et en fait, vous voyez bien que le mécanisme est une certaine interprétation de la Bible, hein, qui imagine que nous seuls ressemblons à ce créateur antérieur, étranger et transcendant par rapport à sa création. Donc on se met hors monde. Et le mécanisme et la science et la religion, en fonction d'une interprétation réductrice, nous ont mis hors monde.
Donc là, on renvoie un peu, pardon, j'en tape mon micro, on renvoie un peu la science et la religion dos à dos.
Non, elles ont contribué à faire naître ensemble. Et si vous voulez, la religion a complètement conforté le paradigme mécaniste. C'est la raison pour laquelle le XVIIe siècle est d'ailleurs un siècle très mystique. Et puis petit à petit, la science s'est dit, la religion, on va mettre ça de côté, on va s'en débarrasser. Mais donc effectivement, une interprétation historique du christianisme a joué un rôle énorme dans l'avènement de la modernité. Ça ne veut pas dire que le christianisme aurait une essence et que cette essence serait coupable. Mais en tout cas, les interprétations qui se sont déroulées sur une partie de l'endroit où s'est développé le christianisme ont conduit et ont conforté ce mécanisme naissant.
Un extrait du Printemps silencieux de la biologiste Rachel Carlson.
Tout au long de l'agriculture prémoderne, les insectes ne posaient quasiment pas de problème aux paysans. Les ennuis sont apparus avec l'intensification de l'agriculture, lorsque l'on a commencé à consacrer d'immenses superficies à une seule récolte. C'est ce système qui a créé les conditions favorables à la multiplication explosive de certaines espèces d'insectes. La monoculture ne tire pas profit des principes selon lesquels la nature fonctionne. C'est l'agriculture conçue par un ingénieur.
Le Printemps silencieux, c'est un livre qui date de 1962.
62, oui.
On dit que c'est la naissance de l'écologie.
Alors, ce n'est pas la naissance de l'écologie, mais si vous voulez, c'est un livre très très fort. Ce livre-là va avoir une influence publique vraiment importante. Par exemple, la création de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, qui est créée, je crois, en 71, c'est un peu une conséquence de tout ça. Finalement, c'est même Kennedy qui va prendre sa défense. Et Rachel Carson, c'est quand même une sacrée femme, hein. C'est-à-dire que, alors déjà, premièrement, elle écrit superbement, vous venez de l'entendre. Deuxièmement, c'est une des premières, elle va aller chercher des connaissances scientifiques qui sont pas connues du public, elle les rassemble et l'on fait quelque chose qui est clair sur les dangers en cours. Et en fait, elle a eu mille fois raison. Elle a un courage extraordinaire. Quand elle écrit ce livre-là, elle commence à souffrir d'un cancer. Elle va être vilipendiée, insultée. Et encore aujourd'hui, vous avez des crétins qui continuent à vous dire que c'est de sa faute, si vous voulez, on n'a pas interdit le DDT c'est elle qui aurait occasionné le fait qu'on aurait interdit le DDT en Afrique, ouais. Et elle serait responsable d'un million de morts. C'est une bêtise totale. D'ailleurs, en fait, maintenant, l'OMS a interdit le DDT, mais si vous voulez, il n'a jamais été interdit en Afrique, si ce n'est récemment, je crois, par l'OMS. Faut voir si cette interdiction a été confirmée. Elle était prévue. Donc, en fait, comme Rachel Carson est cette première écologiste qui a une influence sur les politiques publiques, pour certains think tanks conservateurs, il était très très important de la salir et de la rendre responsable d'un million de morts, ce qui est un pur mensonge.
Alors, les étapes sont innombrables. Il y a le rapport du Club de Rome, hein, sur les limites de la croissance, c'est dans les 1972. Il y a, vous en parliez tout à l'heure, la première COP, 1992, au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Non, vous ne parliez pas de la première, vous parliez de la COP 26 à Glasgow.
La première, oui, ça doit être 93 ou 14.
C'est ça, 92, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé tout au cours de ces années? C'est plutôt en pire.
Oui. Alors en fait, oui, c'est là. Si vous voulez, ce qui est assez curieux, vous avez des choses qui se dessinent dès le départ, dès les fonds baptismaux, quand on parle d'animal-machine ou de plante-machine, hein, quand Descartes parle d'animaux-machine, c'est pas une fantaisie. C'est vraiment la conséquence la plus logique du paradigme mécaniste, même s'il y aura des résistances, bien sûr. Mais en fait, on va commencer vraiment à le penser avec les traités de zootechnie, plutôt la deuxième moitié du 19e siècle, et c'est avec l'élevage industriel du 20e siècle qu'on va mettre en pratique les animaux-machines. Donc c'est pour ça que quand je parle de tectonique des plaques, en fait, si vous voulez, un paradigme, ça se déploie au très long cours. La graine, si vous voulez, destruction du monde animal qui est là dès le départ, mais que les gens ne pensent pas comme tel. Descartes ne pense pas qu'il va tuer les animaux, hein, soyons très clairs. Mais ça va se développer par après. C'est des mécanismes, des dynamiques plus exactement, qui se déroulent, si vous voulez, au long cours, qu'il faut essayer de comprendre. Et effectivement, dans ce cadre-là, Rachel Carson joue un rôle vraiment important. Elle a vraiment saisi quelque chose. C'est une femme extraordinaire, c'est une sorte d'héroïne, si vous voulez.
Alors une autre qui est pas mal aussi, c'est Greta Thunberg.
Ah oui.
C'était le 24 septembre 2019 à l'ONU devant les dirigeants de la planète.
I shouldn't be up here. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et là, vous venez devant nous, les jeunes, pour nous parler d'espoir. Mais comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je suis parmi les chanceuses. Des gens souffrent. Des gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous?
Donc elle est en larmes, là, Greta Thunberg. Là aussi, elle inspire. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont on a pu salir Rachel Carson.
On le fait pour elle.
On le fait pour elle, parce
bien
qu'elle
sûr.
Inspire des sentiments plus que mêlés.
Oui, alors elle inspire vraiment des propos ignobles. Appelons un chat. Non, pour moi, c'est une héroïne. Et elle a quelque chose de fantastique, Greta Thunberg. C'est que, en fait, si vous voulez, on disait tout à l'heure que finalement, nous, on veut pas voir. On fait tous l'autruche, et on le voit dans cette campagne présidentielle. Elle voit intensément. Elle voit ce qui est en train de se faire. Et vous entendez sa voix. Vous voyez l'émotion. Elle a cette capacité d'essayer de se concentrer sur ce qui est en train de se produire et de le ressentir. Et en ce sens-là, c'est très important. C'est elle qui va faire partir le mouvement de la jeunesse, la grève du climat, dont la Covid va finir par avoir raison d'ailleurs.
Mais justement, quand on voit les jeunes, et là il y a une étude qui a été menée dans une dizaine de pays à travers le monde, donc c'est pas que des jeunes de 10 ans,
c'est partout. Cette étude, hein.
C'est absolument effrayant.
C'est le mot d'ailleurs, des jeunes pour qualifier leur avenir.
Ils trouvent que leur avenir est effrayant, ils doutent même, enfin, ils se disent même que l'espèce humaine pourrait disparaître.
Oui, 56% je crois redoutent, s'interrogent en tout cas sur la fin possible de l'espèce humaine, 39% s'interrogent sur le fait d'avoir des enfants, et 3 sur 4, avec, comme vous le disiez, Petra, c'est très important, des gens des Philippines, des gens
du Brésil,
du Nigeria, donc pas du tout des bobos occidentaux, qualifient, 3 sur 4, c'est énorme, qualifient leur avenir d'effrayant. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur la COP26. Et vous voyez la campagne en France. Donc franchement, c'est très difficilement compréhensible, si ce n'est par des mécanismes très forts de déni.
Alors peut-être aussi, on essaie de trouver un petit peu, tout de même une petite fenêtre ouverte, c'est peut-être aussi précisément par ces jeunes qui développent une éco-anxiété, comme on le nomme maintenant, c'est par ces jeunes qu'arriveront des solutions.
Alors, le pire, si vous voulez, c'est ce que disait tout à l'heure Corinne, et en ce sens-là, c'est pas faux, si vous voulez.
Corinne
Peluchon, c'est une amie, donc voilà. C'est Corinne Peluchon, une philosophe
vraiment importante. Comme quand vous dites Sophie, c'est Sophie Svatton avec laquelle
Sophie, c'est Sophie Svatton, c'est ma co-auteure, effectivement, pour qui j'ai une très grande estime. Voilà. Mais je reviens donc à ce que disait Corinne Peluchon tout à l'heure. On a des formes de... Enfin, je veux dire, on a au moins des chemins de sortie de l'horreur et de la crise. Ça, c'est clair. On les a. Après, c'est peut-être plus compliqué quand on va commencer à avancer. Mais ces chemins, ils sont tracés. On pourrait au moins les emprunter.
Mais c'est quand même du sang et des larmes.
De toute façon, si vous voulez, au point où on en est aujourd'hui, on aura une terre beaucoup plus difficilement habitable. Ça, on l'a malheureusement déjà décidé. Simplement, si je vois le trend d'aujourd'hui, si je vois qu'il n'est pas absurde que Trump revienne, ou en tout cas des républicains complètement trumpisés, qui dénient la démocratie, qui aujourd'hui font un coup d'État rampant, en s'arrangeant pour que dans les États républicains, les électeurs démocrates potentiels ne puissent pas s'inscrire. Si je vois l'extrême droite en France, c'est quasiment la moitié des suffrages potentiels exprimés au travers des sondages. Si je vois Poutine et son Ukraine, si je vois Xi Jinping et ses Jeux Olympiques complètement délirants, etc. Modi, c'est pas mieux, Erdogan, Erdogan, vous imaginez. C'est-à-dire, franchement, Patricia, pour être optimiste, il faut avoir le cœur bien accroché. Ou alors, faire comme on le fait dans ce livre, regarder au-delà.
Voilà, et ou ce qui a précédé aussi, parce que dans, voilà, dans cet essai sur le pensable, donc Primauté du vivant, Dominique Bourg, vous convoquez trois grandes figures de la philosophie dans lesquelles finalement vous puisez votre réflexion, c'est-à-dire Bergson, Spinoza et Nietzsche. Je ne sais pas dans quel ordre il faut les prendre. Et tous les trois, finalement, sont inscrits dans une forme de filiation à l'égard du vivant.
Tout à fait. Alors, on puisse pas notre inspiration dans ces trois figures.
Dans votre réflexion.
On a construit à partir de cette notion de paradigme. Comment le vivant, c'est le vivant, c'est la pensée. Quand je dis la pensée, c'est trop dire, parce qu'on fait la distinction entre pensée et pensable, mais peut-être on va laisser ça pour le moment. Mais
en tout cas. Que c'est trop difficile pour les auditeurs de France Inter?
Non, absolument pas, mais je sais pas si on a encore le temps de le faire, mais sinon on peut le faire avec grand plaisir. Et ensuite, quand on va revisiter ces trois grandes figures de la pensée, eh bien effectivement, on essaie de montrer en quoi on peut s'appuyer sur elles, et en quoi, grâce à elles, on peut peut-être faire une part du chemin supplémentaire.
Alors, par exemple, si on prend Bergson, c'est quoi chez Bergson? C'est une forme d'élan vital?
Oui, c'est l'élan vital. Quand on parle de flux, quand on parle de paradigme comme flux et élan vital, vous voyez très bien que c'est ça. En plus, c'est une compréhension du vivant qui emporte la totalité du vivant, qui va faire, par exemple, qu'intelligence et instinct, eh bien, ça ne s'oppose pas. C'est finalement deux formes différentes d'intelligence. C'est l'idée d'une unité du vivant. Et puis, Bergson, c'est celui qui, à la fin, si vous voulez, du traité sur les sources de la morale et de la religion, on revient à se dire, ben voilà, il faut revenir à la vie simple. Bergson, c'est celui qui s'intéresse à la mystique. C'est celui qui pense que, si vous voulez, il y a des formes de savoir qui vont au-delà des seules sciences. Et donc ça, c'est toutes sortes de choses qu'on a essayé de bâtir un peu différemment dans ce livre. Mais effectivement, on trouve chez Bergson un appui fondamental.
Et Nietzsche, c'est la critique du mécanisme ?
Alors, il y a la critique du mécanisme, mais finalement, on essaie de montrer que la volonté de puissance, ça peut s'interpréter aussi. C'est une autre manière de lire l'élan vital et ce qu'on appelle le flux.
Parce qu'on a fait beaucoup de contresens sur la volonté de puissance.
Ah oui, alors on a fait de Nietzsche une espèce de pré-facho. Non, c'est une certaine lecture de Nietzsche qui vont donner ça, mais la lecture qui convient d'en faire, et puis celle à laquelle on essaie de s'attacher, franchement, on est aux antipodes de ça. Et puis chez Spinoza,
chez Spinoza?
Chez Spinoza, c'était très important à nos yeux. Pourtant, c'est un des plus grands promoteurs du rationalisme qui dit, non, désolé les amis, mais il y a la connaissance naturelle, la connaissance rationnelle, mais il y a une forme de connaissance plus intuitive par les prophètes. Et dans notre chapitre sur les savoirs chamaniques, alors on montre avec un exemple très très précis, qui concerne les arbres à pluie et le cycle, si vous voulez, le lien entre la forêt et le régime des pluies, à quel point un chaman l'écrit 10 ans avant que nos travaux se soient développés sur ces sujets, et le décrit et indique quels sont les arbres à pluie au sein de la forêt amazonienne. Je vous rappelle que lui n'a aucun microscope, aucun appareil d'analyse des airs au sol produits par les arbres. Il n'est jamais allé au-dessus de la canopée, etc. Et il possède ce savoir. Et on donne d'autres exemples de savoir. Alors, en plus, pour ces peuples, c'est pas qu'un savoir. C'est peut-être justement un de nos problèmes. C'est ce qu'on appelle nous savoir est inséparable chez eux de sagesse et d'un art qui consiste à se mettre en harmonie avec le vivant en le respectant. C'est pas franchement ce qu'on sait faire.
Dominique Bourg, je rappelle que vous êtes ce soir notre invité pour un essai Primauté du vivant que vous avez co-écrit avec Sophie. Comprendrez, Sophie Svatone. Laura Cahen sur France Inter, La fièvre noire.
Quand je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt neige sur Labrador. Les murs me font perdre la vue et mon visage se tord. La fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Ma fenêtre est close et j'ai le vague à l'âme.
Martin.
Je ne fais pas la différence entre l'éthologie animale et l'éthologie humaine, c'est l'éthologie des êtres vivants. Chaque être vivant perçoit son monde. Le monde d'une abeille est fait d'ultraviolet, le monde d'un éléphant est fait d'infrasons, le monde d'un chien est fait d'odeurs, et le monde d'humain est fait de paroles. Et chaque espèce vit dans le monde qu'il perçoit, avec lequel il se fabrique des représentations. Représentation animale, olfactive, sonore, visuelle. Représentation humaine, sonore, visuelle, olfactive. Et récit, représentation verbale. Donc chaque espèce vivante vit dans son monde, qu'il perçoit et qu'il agence pour en faire une représentation. Donc pour moi, il n'y a pas de distinction entre le monde animal et le monde humain. On ne peut pas dire c'est vrai chez les animaux, donc c'est vrai chez les humains. Mais on peut dire, voilà une hypothèse animale. Est-ce que cette hypothèse est pertinente dans le monde humain ?
C'était donc Boris Cyrulnik, sa voix est connue, neuropsychiatre, psychanalyste. Donc, en fait, voilà, nous faisons partie d'un tout. L'homme pense à sa manière, l'animal pense à une autre manière, un végétal pense aussi. Donc, la nature possède un savoir. Là, on en revient à quelqu'un dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est Nicolas Boulot, avec lequel vous avez, je crois, travaillé. Ce que nature sait, c'est un livre qu'il a écrit, un très grand livre, très important.
Oui. Alors, pour revenir à ce que dit Boris Cyrulnik, si vous voulez, il rappelle l'acquis du XXe siècle. Mmh. C'est-à-dire que les animaux se représentent tous un monde. Ces mondes sont différents et nous, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité. Ça, c'est vraiment le grand acquis de l'éthologie. Nous, ce qu'on apporte dans le livre, c'est que tous ces mondes sont sans doute liés par quelque chose qui les porte au fond. Alors, j'en viens. En deçà de nos pensées, de nos représentations, on essaie de montrer qu'il y a du pensable. Le pensable, si vous voulez, est à nos pensées ce que l'espace est aux choses, ou le monde est aux choses. Mmh. Et l'idée qu'on défend dans ce qu'on appelle le monisme réflexif, c'est que penser, et ce qu'on appelle matière faute de mieux, et penser faute de mieux, c'est simplement les deux faces qui pourraient paraître hétérogènes, d'ailleurs chacune est irréductible à l'autre, mais d'une même réalité. Et donc, en fait, s'il y a du pensable commun sous tous ces êtres vivants et au-delà des êtres, enfin, sous la totalité des êtres vivants, et quelqu'un comme le grand géologue Weisbruch va même plus loin, il y a une unité qui est beaucoup plus forte encore que cette idée de représentation différente attachée chaque fois à un monde différent. On est porté par le vivant, qu'on soit être humain ou qu'on soit animal, qu'on soit plante, et peut-être même minérale.
Mais justement, au sujet des plantes, parce que c'est, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces savoirs chamaniques dont vous parliez tout à l'heure, et ce dialogue donc qui est permis grâce aux chamans entre le monde visible et le monde invisible, et cette vibration des plantes. D'ailleurs, il y a un livre que je recommande à tout un chacun qui nous écoute en ce moment, c'est le livre de Jacques Tassin, je crois, aux arbres, qui est paru chez Odile Jacob, qui est un merveilleux livre. Il y a une déclaration des droits de l'arbre qui a été proclamé en 2019 devant l'Assemblée nationale, donc de façon
avec des fils bateaux, voilà, et à laquelle je souscris totalement.
Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est pas des vues de l'esprit, c'est pas des cinglés qui tout à coup.
Ah non, pas du tout. Si vous voulez, une découverte, je dirais plus récente, hein, c'est les 20 dernières années, c'est que le monde végétal n'est pas moins vivant que le monde animal. Alors, il n'est pas de la même manière, mais
c'est peut-être plus discret. Je sais pas.
Alors, déjà. Pas de manière aussi individuée. Ça peut arriver, l'individuation, mais la plupart des êtres végétaux sont ce qu'on appelle des êtres colonières. Mais on va trouver dans le végétal des choses qui sont complètement fantastiques. Hein, par exemple, un exemple très connu et cher à Francis Allais, le papillon Heliconius amène ses larves, va pondre ses œufs sur une plante. Je crois que c'est la passiflore. J'espère ne pas dire de bêtises, sinon qu'un botaniste me corrige. Et en fait, c'est pas génial pour la plante, parce que évidemment les œufs devenus des larves vont la manger. Et donc en fait, elle va changer la forme de ses feuilles pour tromper, pour leurrer le papillon, comme si elle pouvait de l'extérieur voir la forme de ses feuilles. C'est-à-dire qu'en fait, dans le vivant, il y a quelque chose de très étonnant. On a l'impression, il y a d'autres exemples qu'on donne dans le livre, si vous voulez, notamment sur la station Debout des Arbres et d'autres, comme si vous voulez, il y avait une espèce d'intelligence écosystémique qui pouvait comme se percevoir dans l'espace. En tout cas, c'est des choses qui sont très, 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 très étonnantes. Et là, évidemment, c'est cette idée de pensable qui est sous-jacent à tout vivant qu'on essaie de défendre dans ce livre en montrant petit à petit des indices et en renforçant pour arriver à un chapitre qui nous légère. Voilà, c'est ça que l'on veut faire. Et là, c'est un acquis plus récent que ce qui se passe, si vous voulez, du côté de l'éthologie, où finalement, ça fait maintenant 7 décennies qu'on a détricoté les différences que les classiques posaient entre les êtres humains et une différence de nature et pas de degré entre les êtres humains et les animaux.
Avec des histoires dont on ne se lasse pas, surtout quand elles sont racontées par le primatologue et éthologue Franz De Waal.
Et ma conclusion, c'est que sur le plan émotionnel et social, nous sommes extrêmement semblables aux chimpanzés et aux bonobos. Je vous donne un exemple. Il y a une très très vieille femelle de chimpanzé qu'on appelle Penny, qui vit à l'extérieur. Elle est vieille, elle ne peut plus très bien marcher. Donc quand elle essaye d'aller boire de l'eau, là où il y a le robinet d'eau, ça lui prend 10 minutes pour y arriver en marchant. Donc il y a beaucoup de jeunes femelles qui vont aller devant elle, aller au robinet, prendre suffisamment d'eau dans la bouche, elle ouvre la sienne et lui crache l'eau dans sa bouche à elle. Donc en fait, il lui apporte de l'eau. Donc ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que les autres femelles ne sont pas liées familialement à elle. Elles ne reçoivent rien en retour parce que Penny est tellement vieille qu'elle ne peut rien donner en échange. Donc c'est de l'altruisme pur. Il y a beaucoup d'études qui sont faites maintenant sur l'altruisme chez les bonobos et chez les chimpanzés. Les gens pensent toujours que les animaux ne font rien les uns pour les autres. Mais en fait, ils s'aident, ils s'entraident. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, ces émotions, cette empathie, avec beaucoup d'autres émotions, bien sûr.
Franz De Waal, donc, qui raconte ce qu'il a pu observer chez les chimpanzés.
C'est fabuleux, parce que l'altruisme, le sentiment moral. En fait, ce dont on s'est aperçu, si vous voulez, il n'y a rien qui soit totalement spécifiquement humain.
Donc il y a une paroi poreuse.
C'est très poreux. Alors, il y a un moment donné, si vous voulez, sur la même ligne, on va ajouter quelque chose, mais c'est sur la même ligne. Par exemple, ça s'était découvert par des éthologues japonais dans les années 50, on s'est aperçu que les macaques avaient des règles de parenté. Alors, dans un système matrilinéaire, mais les macaques s'accouplent pas comme ça, comme ils le veulent, les amis. Hein. C'est très régulé, comme chez les êtres humains. Il n'y a rien d'humain qui, d'une certaine manière, n'est pas, si vous voulez, au moins une espèce d'appel, parfois très fort, dans, chez nos cousins, les animaux. La seule chose, peut-être, qui nous distingue, mais c'est pas très très agréable, Patricia, c'est que nous savons faire preuve d'une destructivité dont aucune autre espèce n'a su faire preuve, en tout cas sur un temps aussi court.
Qu'est-ce que le Covid, la Covid, comme il faut dire maintenant, moi j'ai plus compte du Covid, voilà. Qu'est-ce qu'il a pu nous montrer du doigt, nous apprendre? On parle du Covid, mais on peut aussi parler d'Ebola, on peut parler du VIH, on peut parler du H1N1. Voilà. Maladies qui vont des animaux aux hommes et vice versa, quoi. En fait.
Tout à fait. Ben, nous sommes des vivants. Hein. Alors, on a deux leçons possibles. Elles sont en l'espèce contradictoires, mais sur la durée pas du tout. La première leçon, c'est si effectivement on est dans le schéma classique des zoonoses qui augmentent. Hein, les dernières décennies, les zoonoses ont augmenté de 3/4. C'est énorme. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, finalement, on va se trouver en contact maintenant. Comme on a détruit tout le vivant et il n'y a plus d'espace qui ne soit pas anthropisé d'une manière ou d'une autre, on va se retrouver en contact avec des espèces avec lesquelles on n'a jamais été en contact.
Évidemment, on a envahi leur territoire.
Bien sûr, on les a bouffés, en fait, si vous voulez, à tous les sens du terme. Et donc, quand ça se produit, bien, on peut effectivement s'attraper, alors souvent par l'intermédiaire d'une espèce qui nous est plus proche, et bien un virus qui va finir par s'avérer très dangereux pour l'espèce humaine. Ça, c'est probablement ce qui s'est passé. Il y a une autre hypothèse possible, c'est une fuite dans un laboratoire P4 à Wuhan en Chine. On ne saura jamais, puisque comme vous le savez, c'est un régime immensément démocratique et transparent, donc on ne le saura jamais. Mais on ne pourra jamais l'exclure. Et en fait, les deux sont intéressants. Vous avez deux formes de folie humaine. Vous avez une folie plus lente, par une extension indéfinie qui bouffe tout et qui détruit tout, ou vous avez une folie technique. De manipulation et de démiurgie. Et quand vous voyez ce qui se prépare aujourd'hui, utérus artificiel dans les laboratoires de biologie synthèse, je vous dis pas, c'est l'horreur. Et tous ces gens-là vont faire ça en général avec l'agrément des gouvernements, avec l'agrément des détenteurs de capitaux, etc. C'est quand même extrêmement inquiétant.
C'est d'autant plus inquiétant qu'à vous lire, on s'est dit qu'on peut quand même prendre le temps de réapprendre à rêver, de réapprendre à avoir envie, de réapprendre à inventer, mais peut-être pas des choses aussi destructrices que celles dont vous venez de parler, que tout ça est un bon antidote à l'anxiété, qu'il faut rester combatif, chacun à la place qu'il occupe.
Absolument, c'est l'histoire du colibri, mais c'est vrai, chacun doit faire ce qu'il peut faire, et je dirais qu'on a, c'est pas facile, parce que moi-même je dois beaucoup lutter, mais on doit avoir le devoir, enfin on a le devoir, on doit s'imposer le devoir de ne pas perdre l'espérance.
Ce sera une nouvelle terre, finalement.
Voilà, pour une nouvelle terre, quand je n'en sais absolument rien, là, ce qui s'annonce dans les prochaines décennies et largement au-delà est pas très drôle, mais l'humanité a la peau dure et on peut imaginer qu'elle saura à un moment donné tirer les leçons de siècles de folie.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire comme argument choc à des, parce qu'il restera toujours au moins un noyau de climato-sceptiques, hein. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Paix à leur âme. Et je n'ai rien d'autre à leur dire.
Est-ce qu'il y a un pays vertueux en
non,
la matière?
Non, ça n'existe pas. Même les pays qui sont plus avancés, si vous voulez, par exemple les pays scandinaves, vous allez trouver aussi chez eux des trucs bizarres. Les Norvégiens sont géniaux, mais ils c'est pas quand même tout à fait les amis des baleines, enfin voilà, etc. Si vous voulez, c'est un trait de notre humanité commune. On est quand même franchement des êtres très perfectibles.
Bon, alors continuons-nous. C'est voilà. Une bonne nouvelle. On va essayer de se perfectionner. Merci beaucoup, Dominique Bourg. Donc, je rappelle cette primauté du vivant, cet essai sur le pensable que vous avez écrit avec Sophie Swatton et qui est publié aux éditions du PUF. Merci beaucoup.
Merci, Patricia Martin.
La semaine prochaine, dans l'heure philo, nous parlerons d'anarchisme, anarchisme et philosophie avec Catherine Malabou. Et puis dans un instant, juste après les informations de 21h, Julia Foyce, unique en son genre.